تطبطبطبطبيني تطبطمصي تيني زماني الغايب عالحياة الفرحة تطبطبطبطبيني تطبطمصي تيني زماني الغايب عالحياة الفرحة. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Rock and Page, Marie-Pierre Soriano aux commandes de votre magazine culturel, littéraire et musical, si on s'y penche un peu plus. Moi je lis et avec vous je partage, j'interviewe les auteurs, je chronique et je vous propose une playlist par ouvrage, histoire de partager les émotions de lecture, oui, mais autrement. Et puis, ça c'est la nouveauté saison 2014-2015, me voilà entourée de trois chroniqueurs, une fois par mois, chacun vous donne rendez-vous. Mademoiselle Amo pour son mot à elle, Catherine Rochette pour le cinéma et Bibio Manu pour À la frontière des genres, chronique consacré aux littératures policières et science-fiction. D'ailleurs, d'ici une poignée de minutes, c'est avec grand plaisir que je lui laisserai mon micro. Mais en attendant, je suis ravie de vous annoncer que ce rock'n'page-là est consacré à Yekini, roi des arènes, une magnifique bande dessinée signée Lisa Lugrin au dessin et Xavier Clément à l'écriture, éditée chez Fleubleu et qui vient de se voir récompensée à Angoulême par le prix Révélation 2015. Cette bande dessinée, ce roman graphique qui nous plonge au cœur du Sénégal, face à ce sport que nous méconnaissons dans nos contrées, la lutte, et qui est là-bas pour des raisons diverses sur lesquelles nous reviendrons, il s'agit de bien plus qu'un sport. Et comme j'en ai de la chance, d'ici une poignée de secondes, Lisa Lugrin, l'illustratrice de Yekini, le roi des arènes, répondra au téléphone pour vous à toutes mes questions. Mais pour l'heure, voilà à peu près comment je me sentais lorsque je l'ai refermé cette bande dessinée là. When the vamp up, then when I hit that dip, get your camera. You can see even that bitch shit the camper. In the DM, that young sister beacon, the bitch who wants to compete in. I can freak fit that pump with the peep in. You know what your bitch become when her weave in. I just wanna sip that punch with your peeps in. Sit in that lunch if you're treating. Kick it with your bitch who come from Parisian. She know where to get my from in the season. Now she wanna lick my plum in the evening. And fit that tongue to deepen. I guess that can't get any in. I guess that can't get any in. I guess that can't get any in. I was in a 212, I'm the uptown A nigga, you know what's up or don't you? Word of who made ya, I'm a rude bitch nigga, what are you made up of? I'ma eat your food up boo, I could bust your eight. I'm a 212, fuck a gun do. When you do make bucks, I'ma look right nigga, bet you do want to fuck. Fuck 'em like you do want to come. You gated, get discovered, I'm a 212's cock. I'm licking in the water by the blue bayou. Caught the warm goose, and you do-rag too, son. Nigga, you're a Kool-Aid dude, plus your bitch might lick it. Wonder who let you come to 1-2. What you do to crew, son? Fuck are you into, huh? Niggas better ooh run run. You could get shot, homie, if you do want to. Put your guns up, tell your crew don't front. I'm a hoodlum, nigga, you know you were 2-1s. Bitch, I'm about to blue up too. I'm the 1-2 day, I'm the new Shifu, young Rapunzel. Who are you, bitch, new lunch? I'ma ruin you, cunt.
Same tall, telling I'm your mason, saying you're grinding, but you ain't going nowhere. No, why you procrastinate, girl? You got a lot, but you just worry your star. Use it, they'll forget your name soon. Niggas, the 212, fuck your gun too. When your goon sprayed up, bet this bitch won't get him. Bet you won't do much. See, even if you do want to bust, you bitch, you get your cut and touch your crew up too. Pop, you playing with your butter like a boo, won't you? Cock the gun too. Where you do eat poom, hun? I'm fucking with your cutie cue. What's your dick like, homie? What are you into? What's the run, dude? Where do you wake up? Tell you bitch, keep hating. I'm a new one too, huh? See, I remember you when you were the young new face. But you do like to slumber, don't you? Now you boo up too, hun. I'ma ruin you, cunt.
What you want to when I appear? But when I prepare, bitch, the end of your life will air. The ship in mine, what you gonna do when I appear? But when I prepare, bitch, the end of your life will air. The ship in mine, the ship
C'était Azealia Banks pour toute la dimension tribale de son univers musical, son tempo à vous filer le palu, rien qu'en écoutant ce titre-là. Bref, l'Afrique, même lorsqu'elle est racontée. Et c'est bien, oui, un morceau d'Afrique que nous offrent Lisa Lugrin et Xavier Clément dans Yekini, le roi des arènes, ce roman graphique dense et riche qui vient de remporter le prix Révélation à Angoulême. En ce qui concerne la petite histoire de Yekini, et avant de laisser la parole à Lisa Lugrin qui a réalisé les illustrations de ce remarquable travail, nous voilà donc au Sénégal, face à l'histoire de Yakia Diop, un jeune combattant lambe sénégalais, le lambe étant la forme de lutte traditionnelle du Sénégal profond, soit à la fois une sorte d'art martial et d'expérience mystique, Yakia Diop, qui, au fil des victoires, deviendra le grand Yekini. Yekini, donc, personnage central de cette œuvre somptueuse, il est aux prises avec deux autres personnages tout aussi importants, à savoir d'un côté Tyson, le champion qui a révolutionné le lambe en lui donnant sa forme moderne, celui qui a défrayé la chronique en se radinant drapé dans le drapeau ricain, celui qui défraye la chronique en se comportant comme un bad boy et qui, du coup, devient une marque en soi, un produit à vendre, né et vivant à Dakar, alors que Yekini, lui, vient du Sénégal profond, et ça, dans le récit et dans son message, c'est plus qu'un détail. Et puis, de l'autre côté, encore face à Yekini, on trouve Bala Gaye 2, le nouveau prometteur de lutte, là, le champion de lutte, qui amène avec lui une certaine attitude, alors là, punk au Sénégal, mais punk. Comme Yekini détrône Tyson, Bala Gaye 2 a bien l'intention de faire la même chose avec Yekini. Et ce que vous devez bien mesurer à ce stade-là de la chronique, c'est que les auteurs s'attachent à ce que les attitudes de chaque combattant soient profondément chargées de l'histoire du pays, de la politique et de la culture de leur propre vision à tous les deux du Sénégal contemporain. Et que pour y arriver mieux encore, les deux auteurs ont poussé le bouchon jusque dans la mise en forme de leur ouvrage. Construit sur un format très classique, hein, des planches de 8 cases tracées à la main, comme pour signifier cet art brut si caractéristique de l'Afrique, ils ont introduit à l'intérieur de cela non seulement des photos de leur propre voyage au Sénégal, mais au prétexte du récit d'un concours scolaire de bande dessinée, ils introduisent la couleur en insérant totalement la bande dessinée de l'élève gagnant du concours qui retrace aussi la vie de Yekini. Allez-vous, avant de laisser la parole à Lisa Lugrin, moi je vous y emmène tout droit au Sénégal.
Arbitre sifflé na mbok yi ñi ngi ci ben fan ci wéru janvier atum 2006 ñi ngi fi ci stade Léopold Sédar Senghor Yekini Tyson ñom ñaar ñi ngi déppo combat organisé par l'action 2000 action 2000 DJ Andongolo ñom ñaar ñi ngi léwto Tyson Yekini ñi ngi léwto Tyson déplacé wu na Yekini top na ñom ñaar ñi ngi léwto ñom ñaar ñi ngi léwto Tyson mel na ni kuy wacc yéga
Voilà, c'était un tout petit montage de divers sons issus et des combats de lutte au Sénégal et de ces moments d'avant-combat où ont lieu les tous, qui sont des sortes de danses qui servent à terroriser l'adversaire. Et ce, parce qu'aujourd'hui, dans Rock and Page, on cause de Yekini, le roi des arènes, ce roman graphique signé Lisa Lugrin aux illustrations et Xavier Clément au scénario. Le tout édité chez Fleubeleu et qui vient de remporter le prix Révélation Angoulême, édition 2015. Il est grand temps pour moi d'accueillir Lisa Lugrin. Lisa Lugrin, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation dans Rock and Page et félicitations pour ce prix Révélation que vous venez de remporter pour Yekini, le roi des arènes.
Bonjour, ben merci beaucoup.
Alors, comment il est né ce roman graphique dans votre parcours ?
Donc on était étudiants en bande dessinée à l'école d'Angoulême. Et puis, on avait fait des revues de bande dessinée, participé à des collectifs. Et là, en fait, l'envie de ce livre, c'est venu d'un voyage au Sénégal où on a découvert la lutte complètement par hasard. Et le sport nous a fascinés, les lutteurs nous ont fascinés. Et on a eu envie de creuser, d'en parler en bande dessinée.
Alors dans la chronique qui précède cette interview, je le dis et je le redis, vous donnez bien plus qu'une biographie ou même plus qu'une fiction. On est au croisement presque avec un reportage. Pourquoi avoir choisi la lutte comme prétexte pour nous donner justement plus qu'une biographie, mais pour nous donner presque un état des lieux du Sénégal moderne en fait ?
Oui, c'est exactement ça. En fait, c'est vrai que la lutte, elle nous a intéressés justement parce que c'est un sport extrêmement populaire. et qui du coup croise avec énormément d'aspects de la société sénégalaise. Donc en fait, il y a un côté très traditionnel avec la lutte qui est pratiquée encore dans les campagnes, des potions magiques, des gris-gris qu'ont les lutteurs, les marabouts qui les accompagnent. Et puis un côté ultra médiatique avec toutes les chaînes de télévision braquées sur eux, le stade plein, les hommes politiques qui essaient aussi de récupérer leur image voilà, pour se donner une image un peu jeune. Enfin, disons que ça nous a permis de parler de tas de choses dont on avait envie de parler.
Tout à fait. Alors vous avez fait le choix d'un narrateur externe et pourtant on ne peut pas sortir de cette lecture sans une grande empathie pour Yékini qui au-delà de son personnage représente aussi le Sénégal, enfin, pour simplifier, non corrompu.
Oui, c'est ça. En fait, c'est ce qui nous a plu dans ce personnage, c'est que c'est un peu une revanche sur tout le système médiatique, financier, qui prend de plus en plus de place dans la lutte, mais aussi dans nos vies et même en France. Et c'est vrai que Yékini, il se prête pas du tout à ce jeu-là. Il fait peu de produits dérivés, il va pas beaucoup dans les médias. Et donc, du coup, tous les gens qui sont un peu les financiers autour de la lutte ont envie de passer à autre chose et de voir un autre lutteur gagner. Sauf que lui, eh ben, il s'entraîne, il passe son temps à se consacrer à son sport et il gagne. Et donc, c'est une sorte de pied de nez un peu à tout ce système qui est en train de dévoyer beaucoup de choses, aussi bien au Sénégal que chez nous.
Alors, bien plus que, pour sourire un peu, bien plus que Tyson et Balagaïé 2, qui sont presque rien en matière d'adversaire pour Yékini, moi je dirais que le seul adversaire qu'il va rencontrer dans sa vie, c'est Marie-Hélène.
Oui, oui, c'est vrai. On a quand même mis un personnage féminin, parce que c'est vrai qu'il y a, sinon, il y a beaucoup d'hommes, en fait, dans cette histoire. Et c'est vrai qu'il va y avoir cette femme dont il est très amoureux et qu'il va devoir quitter pour les besoins de son sport et de son métier. Et voilà, c'était aussi pour le rendre un petit peu plus sympathique et puis donner un petit peu la parole aux femmes aussi.
Comment est-ce que vous avez pensé, comment vous avez travaillé sur cette question de l'intégration des photos, les montages qui lient photos et illustrations notamment ?
Oui, alors on a vraiment joué sur le contraste, le dessin est en noir et blanc, j'ai essayé de faire quelque chose d'assez réaliste, mais ça reste assez dynamique. Et les photos sont en couleur, au contraire. Mmh. Et en fait, c'est vraiment, il y a un côté une fiction, c'est pas du reportage, parce qu'en fait, on a vraiment mis en scène Yékini, ça se lit, voilà, on est avec lui, on vit les aventures avec lui. Et par moments, ça nous rappelle que tout ça est vrai, que ce personnage existe vraiment, qu'il y a tout un contexte qui est réel. Donc le choix, c'était aussi de donner un rythme aussi, puisqu'à peu près, je ne sais pas, toutes les 20 pages, il y a quelques photos en couleur. Mmh. Donc ça permet de, voilà, de donner un peu une respiration au récit.
Et puis au milieu de votre roman graphique, on trouve une mise en abîme de votre travail avec ce prétexte, celui du concours scolaire de bande dessinée. Qui vous permet tout un tas de choses, quoi, d'intégrer la couleur, de tout un tas de choses.
Ouais, c'est vrai qu'on avait envie d'utiliser des tas de façons de raconter différentes, et c'est vrai que chaque média et chaque technique nous permet de montrer des choses différentes. Par exemple, il y a des unes de journaux, donc c'est des journaux qu'on a inventés, mais qui s'inspirent de journaux qui existent vraiment. Et plutôt que d'expliquer ce que les médias pensent, etc., en fait, on fait une de journal, on voit tout de suite les gros titres et on comprend tout de suite, beaucoup plus rapidement que par beaucoup de textes, en fait, voilà des idées. Le concours scolaire, c'est un enfant qu'on a vraiment rencontré au Sénégal qui a vraiment fait cette bande dessinée sur Yékini. Voilà, c'est vrai qu'on a mélangé le plus possible de documents pour apporter quelque chose d'assez riche, en fait, à cet univers.
C'est réussi. J'imagine que vous êtes comme galvanisé par la remise de ce prix à Angoulême. Il est largement mérité. Quels sont vos projets désormais ?
Oui, alors on est content de ce prix. Après, on sait bien qu'il y a aussi toute une part de contexte et de hasard, mais bon, on est vraiment content.
Comme à chaque remise de prix, si ça peut vous rassurer.
Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. On en a bien conscience, mais tant mieux. Et là, on est en train de travailler sur une bande dessinée qui adapte les mémoires de Geronimo.
Voilà, ça veut dire un autre voyage,
une autre forme et un autre voyage aussi. Où on revient des États-Unis où on a rencontré ses descendants en fait, au Nouveau-Mexique.
Ça fait presque envie votre vie, hein. Ouais. Lisa Lugrin, merci.
Le voyage c'est la bonne partie, mais après faut dessiner pendant à peu près un an sur sa table à dessin.
Ah oui, oui. Je vais aller chercher les mouchoirs. Ouais. Lisa Lugrin, merci d'avoir répondu à mes questions aujourd'hui dans Rock and Page. Vous ne couperez pas à la question de l'émission. Quel titre de musique ou quel musicien choisiriez-vous pour évoquer l'aventure Yékini dans votre carrière?
Alors, c'est pas directement lié au Sénégal, mais c'est un chanteur que j'aime beaucoup, extrêmement engagé. Et c'est Mano Charlemagne et le titre, ce serait Le mal du pays.
Eh bien, merci beaucoup. Merci et bonne continuation.
Voilà, c'était Lisa Lugrin au micro de Rock & Page, mon invitée, pour vous parler de son roman graphique Yekini, le roi des arènes, qui nous emmène au Sénégal pour y rencontrer ce personnage de géant, vainqueur de lutte, Yekini, mais surtout pour nous montrer le Sénégal d'aujourd'hui, tiraillé entre sa culture ancestrale, faite de rites et de magie, et d'un autre côté par la corruption, le post-colonialisme écœurant et son lot de corruption. Ouais. Bref, une grande réussite, ce roman graphique qui fait presque 400 pages, qu'on se le dise, et qui est d'une richesse de lecture rare. Le tout édité chez Flebeleu, qui vient de se voir couronné par le prix Révélation à Angoulême. Sans transition, parce que la vie, elle est aussi comme ça, sans transition. C'est le moment de notre rendez-vous avec Bibiomanu et sa chronique À la frontière des genres.
Merci Marie-Pierre. Il y a peu, je disais tout le bien que je pensais des livres fraîchement réédités de Dominique Doué. Je l'interviewais ensuite ici même, à la frontière des genres, saluant au passage le travail remarquable effectué par Les Moutons Électriques, son éditeur. Aussi, j'ai pensé que ce serait bien, d'une certaine manière, de boucler la boucle, de m'entretenir directement avec André-François Ruault, le gérant de cette maison d'édition indépendante, au catalogue riche de merveilles, afin qu'il nous parle du parcours des Moutons Électriques, de son travail, de ses choix éditoriaux et bien sûr de littérature. Entrons ensemble en territoire de l'imaginaire, téléportation ce côté. André-François Ruault, bonjour et merci d'avoir bien voulu venir avec nous à la frontière des genres. Votre maison d'édition a maintenant un peu plus de 10 ans. Quel regard portez-vous sur le chemin parcouru ?
Bonjour, oui en effet, on est à peu près à 11 ans, quelque chose comme ça. Ben, ma foi, ça ne cesse d'évoluer avec le marché et puis en fonction aussi de l'évolution de nos envies. On est spécialisé en littérature de genre.
Oui, science-fiction, fantasy, roman policier, mais aussi des essais sur ces différents genres. Qu'est-ce qui motive vos choix, André-François Ruault ?
Ah, c'est essentiellement mes propres goûts. Quand on est une toute petite maison d'édition comme ça, on n'est que deux à bosser à plein temps. Il faut vraiment soutenir chaque ouvrage vraiment très très fortement. Donc il y a intérêt à faire vraiment des choix personnels auxquels on croit vraiment à fond. On ne peut pas se permettre de faire du commercial cynique. Il faut vraiment être passionné et être vraiment derrière chaque livre un par un.
Oui, vous êtes vraiment derrière chaque livre et vous n'hésitez pas, à l'inverse de certaines maisons d'édition de littérature blanche, à favoriser l'émergence de nouveaux auteurs. Je pense à Cédric Ferrand, à Stéphane Plateau ou Jean-Philippe Jarowski, qui est devenu une figure incontournable maintenant de la fantasy française. Comment est-ce que vous expliquez cette différence de prise de risque, si tant est qu'on puisse appeler ça ainsi ?
Bah, d'abord, j'en parlais avec un ami à Jean, il y a deux sortes d'éditeurs. Il y a les éditeurs et il y a les publieurs.
Ah, oui.
Les publieurs, c'est ceux qui se contentent d'acheter des bouquins prédigérés aux États-Unis, puis hop, on publie ça. Bon, c'est pas vraiment mon métier. Moi, mon métier, c'est vraiment de découvrir des nouveaux auteurs. Bon, j'ai eu la chance, effectivement, de découvrir Jean-Philippe Jaworski, qui est maintenant vraiment un très gros best-seller dans le domaine de la fantasy. Et puis, ben, je continue. J'aime avoir une écurie d'auteurs auxquels je suis fidèle et qui me sont fidèles. Je suis un peu possessif comme éditeur, j'avoue. Voilà, donc des gens comme Estelle Faye, comme Cédric Ferrand, comme Nicolas Le Breton, voilà, comme Stéphane Plateau, qui est la meilleure vente pour nous l'an dernier, un nouvel auteur belge de fantasy. Comme Timothée Ray, qui nous fait du polar préhistorique.
Ouais.
Voilà. Puis encore d'autres auteurs.
Il y a un beau catalogue, je le disais.
L'année prochaine.
Ouais, il y a un catalogue riche de merveilles, effectivement. Dernièrement, le magazine Livre Hebdo consacrait un dossier aux littératures de l'imaginaire. Il dressait un constat comme quoi les éditeurs indépendants s'en étaient globalement plutôt bien sortis en 2014, à l'inverse des plus gros éditeurs. Est-ce un sentiment que vous avez partagé, que vous partagez vous-même ?
Ah bah totalement, de toute façon, c'est non seulement c'est mon sentiment, mais c'est ce que j'ai tenu comme propos à Livre Hebdo.
Ouais.
Ma maison et celle de mes deux associés, parce qu'on est un collectif d'éditeurs, ce qui
Les indés de l'imaginaire.
Complètement unique, les indés de l'imaginaire, avec les éditions Mnemos et ActuSF. Et ma foi, bah oui, tous les trois, on se porte plutôt bien.
Est-ce que le fait de s'être rassemblés comme ça, ainsi, tous les trois, ça vous a donné un nouveau souffle, un nouvel élan, véritablement?
Ah bah, carrément. Ah oui, oui, ça nous aide d'énormément de manières. Pas mal de choses sont invisibles des libraires et du public, mais ça nous aide colossalement de travailler, de discuter continuellement. Alors, on a des débats contradictoires, on crée des choses ensemble, on crée des animations, on va dans des salons, on fait de la publicité, enfin, des tas de choses qui ne seraient pas, accessibles à une maison toute seule, vu qu'on est des tout petits, et qui, à trois, vraiment nous portent beaucoup plus haut, de manière passionnante.
Mais malgré tout, vous arrivez quand même à conserver votre ligne éditoriale propre chacun les uns des autres.
Ah oui, absolument, oui, oui, on n'est pas... On ne se confond pas, on a chacun nos propres goûts, notre manière de faire, notre propre look, et nos propres auteurs.
Et une collection Helios en poche en commun aussi.
Voilà, alors Helios, effectivement, c'est notre collection en commun, mais c'est du poche. Mmh. Donc c'est quasiment comme si c'était... Helios, c'est quasiment comme si c'était un quatrième éditeur, en fait, la manière dont c'est géré.
Est-ce que vous trouvez qu'il y a de la place pour tout le monde dans les littératures de l'imaginaire, ou bien au contraire qu'il y a trop de titres chaque année, trop de collections?
C'est partagé. Non, il n'y a pas la place pour tout le monde. Et d'aucuns prennent beaucoup trop de place et ont comme politique d'ailleurs d'essayer d'occuper toute la place pour écraser les autres. Et puis il y a beaucoup trop, à mon goût, de micro-éditeurs qui brouillent l'image des genres. Autrefois on faisait du fanzine, maintenant les progrès de l'impression font que tout le monde et son voisin peut faire un livre qui est plus ou moins la tête d'un livre professionnel. Et donc il y a beaucoup de micro-éditeurs.
D'auto-édition aussi, oui.
Voilà, de l'auto-édition, puis même des toutes petites maisons non distribuées, qui donnent l'impression qu'il y a beaucoup, beaucoup de titres qui sortent, alors qu'en fait, il n'y a pas en librairie tant de titres que ça.
Vous trouvez que ça dessert les littératures de l'imaginaire, justement?
Bah, ça dépend des micro-éditeurs.
Il
y a quelques très bons micro-éditeurs qui font vraiment des boulots que j'admire sincèrement. Et puis il y a une majorité de micro-éditeurs qui font des choses de très mauvaise qualité et qui desservent effectivement l'image des genres. Mais bon, en même temps, ils sont pas très visibles en dehors des salons puisqu'ils sont pas
bien
en librairie et très peu distribués.
Et très peu visibles sur Internet aussi, finalement. Ouais.
Ouais.
Avant de nous quitter, André et François Ruault, vous pouvez nous dire un petit mot sur vos parutions à venir?
Ben, ma foi, le gros événement pour nous, ça va être deux nouveaux Jean-Philippe Jaworski, notre auteur best-seller.
La suite de même.
Carrément, en mai, on sort un Helios. Donc un recueil de nouvelles inédites de Jean-Philippe Jaworski directement en poche.
Très bien.
Dans le même univers que c'est son premier roman. Et puis on sort le deuxième tome de sa trilogie Roi du Monde. Fin mai, donc ça c'est vraiment le gros événement.
Très attendu, en plus.
Ouais. Et puis en avril précédemment, on sort un nouvel auteur, Mathieu Rivero, Or et Nuit, et ça sera une première pour nous puisqu'on va mettre ce roman en rayon jeunesse.
Ah.
Voilà, c'est notre premier essai, on veut l'an prochain, on va...
Développer ça.
S'installer, voilà, développer cela, d'aller en jeunesse, parce que c'est aussi un domaine qui nous intéresse et c'est aussi un domaine qui devient très très important dans les littératures de genre.
J'imagine avec la même exigence aussi, du coup.
Ah bah totalement, bien entendu. D'ailleurs, à l'origine, on avait pris le roman de Mathieu Rivero pour notre collection normale. Bon, c'est après en discutant avec lui, puis en retravaillant le texte avec lui que... il l'avait quand même beaucoup plus orienté young adulte, comme on dit, donc on a décidé de faire un essai en jeunesse, mais l'exigence est la même et les auteurs sont les mêmes. Par exemple, Cédric Ferrand nous prépare une série en jeunesse.
D'accord, pas du tout dans le prolongement de Sovok ou de Batsberg.
Non, totalement autre chose. Une nouvelle série qui sera... d'ambiance Lovecraft, Pulps et Polar à la fois.
Ok, bah, très bien. De belles choses en perspective en tout cas.
On n'arrête pas d'avoir des projets, c'est ça.
Oui, c'est ça qui est bien, c'est un bon moteur. Je vous remercie André-François Ruault d'être venu à la frontière des genres avec nous, et puis je vous dis à très bientôt, et puis on va suivre ça avec avidité même.
Merci.
Merci.
Au revoir.
Voilà, Rock and Page, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous rappelle qu'on vient de causer de Yekini, le roi des arènes, et qu'on a accueilli en interview Lisa Lugrin, son illustratrice. Elle est accompagnée sur ce travail de Xavier Clément. Retrouvez tous les anciens numéros du Rock and Page sur le blog de l'émission au http://thisisrockandpage.blogspot.com. Merci à Bruno qui a réalisé cette émission. À tout bientôt et prenez bien soin de vous.